explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainés, tu connais ?
Vous avez croyé que j'ai pu regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je fais point.
Daniel Fievé.
Tous les vendredis, nous feuilletons l'album de souvenirs du temps d'un bivouac. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur de belles histoires de rencontres et d'amitié. Nous retrouverons d'abord le photographe Pierre de Vallombreuse qui, depuis une trentaine d'années, sillonne la planète pour aller à la rencontre de peuples autochtones. Loin des clichés empreints d'exotisme suranné, il a noué de véritables amitiés chez des Padawans aux Philippines, rencontré des Papous de Nouvelle-Guinée ou encore des Atsabé en Tanzanie. Il s'est donné pour mission de témoigner et d'alerter sur le sort de ces minorités ethniques frappées par des persécutions et menacées de disparition. Puis nous réécouterons le message qu'étaient venus nous adresser dans ce studio deux Indiens Kogi ou Kagaba, venus de Colombie en compagnie de l'écrivain Éric Julien. Une rencontre qui avait marqué toute l'équipe. Et à 17h, nous resterons dans le thème avec Anne Pastor, qui nous présentera comme chaque vendredi un nouveau reportage de sa série Voyage en terre indigène. Mais tout de suite, nous partons en bivouac avec le photographe Pierre de Vallombreuse.
Comment tu t'appelles ?
Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes.
Comment au village des hommes ? Ils vont le gâcher ! Ils vont faire de lui un homme !
Oh, Balou, je veux rester ici avec toi.
Ouais, tu parles que tu restes.
Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre ?
Il est avec moi, n'est-ce pas ? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais.
Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que...
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire.
Un extrait du livre de la jungle pour ouvrir ce bivouac dans la joie et la bonne humeur. Je ne sais pas si le ton de cette émission sera toujours le même. Ce livre, Pierre de Vallombreuse, y est pour quelque chose dans votre vocation. On a l'impression qu'enfant, c'est votre premier contact avec l'exotisme, le lointain.
Oui, c'était pour moi, c'est le livre de la jungle a été quelque chose qui a bercé toute mon enfance. C'était mon espoir, c'était mon rayon de soleil. C'était tout d'un coup une projection avec un monde de rêve, un monde de réalité, un monde voilà le monde que j'aimais.
Ouais. Il y est peut-être pour quelque chose dans votre envie de partir à l'aventure. Votre premier grand voyage, vous l'avez fait relativement jeune, hein, vous aviez 24 ans. Où êtes-vous allé ?
Alors je suis allé à Bornéo. Voilà, je voulais vivre une expérience assez forte. J'adore la nature, j'adore la forêt et je voulais rencontrer la forme de vie la plus humble sur Terre et ce sont les chasseurs-cueilleurs qui la pratiquent. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne construisent rien, ils s'installent, il va chasser, il va cueillir et après il va disparaître. Et je trouve que c'est la forme de vie la plus humble et une des plus belles qui existe. Et donc il y a une magie, je retrouvais un peu le livre de la jungle, la forêt, la nature. Et le choc a été tellement fort, tellement puissant quand je me suis réveillé en pleine forêt, devant ce fleuve avec la brume, les oiseaux et ce peuple immensément poétique. Et je me suis dit, mais voilà, il y a quelques moments dans la vie où on sait qu'on a des révélations profondes, où le cœur, l'émotion, la tête, tout fait corps.
Comment s'appelait ce peuple ?
C'était les Pounan.
Les Pounan. Alors, nous citions parmi vos influences le livre de la jungle. Un homme vous a peut-être aussi influencé, Joseph Kessel, romancier, journaliste, aventurier. Vous l'avez côtoyé étant petit, c'était un ami de la famille. Cette voix vous est donc familière.
Le fait est que un chamelier du désert, un contrebandier du golfe Persique, un cosaque de Sibérie, un noir qui vit au milieu des bêtes sauvages, ou un cavalier afghan, me touche plus et m'émeuvent davantage que les gens qui vivent comme moi. Une vocation, on la suit. Et il est très possible qu'il y a beaucoup de gens qui courraient l'aventure s'ils en avaient la possibilité et les moyens.
Une vocation, on la suit. On a l'impression que vous avez été influencé par Joseph Kessel, vous êtes dans cette droite ligne. Pierre de Vallombreuse.
Ça fait partie des choses qui m'ont, oui, parce que moi, c'est un ami de mes parents, j'étais petit, j'ai passé des vacances avec lui, on a joué au soldat, j'avais fait tout un camp avec des petites salles en plastique, il avait la gentillesse de jouer avec moi un petit peu avec ça. Mais donc voilà, on avait l'influence, je commençais à lire ses livres, et donc je voyais un homme avec un charisme énorme, une énergie, que j'ai vu peu de fois, mais suffisamment pour que tout d'un coup, il y a des gens qui sont, ils ont une telle intensité, et on sent que l'aventure, voilà ce qu'il dit de la vocation, chez Kessel, il n'y a pas de différence entre sa vie et son œuvre. Ça fait un tout. Ça fait partie de ces gens où il ne va pas travailler, il vit. Mm-hmm. Et c'est, voilà.
Est-ce que ça s'applique aussi à vous, Pierre de Vallombreuse? Il n'y a pas totalement de différence entre votre vie, vos photos, et puis, voilà, entre vous et vos photos.
Il n'y a pas l'épaisseur d'un papier cigarette, c'est la même chose. C'est tout à fait, c'est l'expérience, la photographie, la transmission, c'est un tout. Mmh. C'est une vie totalement, c'est la seule chose, je crois. Et c'est drôle, quand j'étais aux Arts Déco, j'étais toujours en retard, je ne rendais pas mes travaux, j'étais pas brillant. Et il y avait un type brillant qui avait écrit sur mon armoire, tu n'es pas un artiste. Et il avait raison, je ne rendais pas grand chose. Et je m'étais dit comme ça, moi je veux dire, je suis peut-être pas un artiste comme vous, mais moi je vais, ma vie sera une œuvre d'art, ouais. Dans le sens que ça va être un tout total et une expérience en permanence, ouais. Et une création en permanence. C'était très présomptueux, très orgueilleux, mais finalement je suis arrivé à mener cette vie-là. À partir du moment où j'ai décidé, tout a changé.
Ouais. Parce qu'effectivement, cette cohérence qui apparaît clairement dans vos travaux aujourd'hui, elle n'était peut-être pas complètement évidente au début, hein, vous le dites.
Non, j'étais en période d'observation, de doute profond. Donc je ne faisais pas grand-chose, si ce n'est que j'écoutais, je regardais, j'observais tout. Et à un moment donné, quand ça s'est déclenché, ça a été extrêmement rapide. Ouais. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté.
Oui, parce que même pendant les Arts Déco, quand vous séchez, c'est pour aller à l'autre bout du monde. Hein, parce qu'on parlait des Punanes, mais vous avez aussi très vite été chez les Palawanes.
Tout
alors,
à fait. Alors ça, c'est la plus grande histoire de ma vie. Elle continue. C'est la plus belle histoire que j'ai de toute ma vie. Hein. De toutes les façons, c'est il y a un endroit, une vallée, un peuple. Et donc j'avais fait aux Arts Déco quand j'ai fait ce premier voyage à Bornéo deux fois de suite. J'ai vendu les photos à Terre Sauvage. Donc j'ai fait la section photo. Et là, j'avais commencé. J'étais plus l'élève cancre et tout ça. Je savais exactement ce que je faisais. Tout d'un coup, la clé était arrivée. Je savais ce que j'avais à faire. Il n'était plus question de perdre du temps. La période d'observation, de gestation était. Et j'ai donc été dans cette petite vallée au sud des Philippines, qui était à l'époque était très éloignée, pas inaccessible. Il fallait mettre 8 jours de petites barques sur l'océan, de jeep, avion, marche. Et là, tout d'un coup, j'allais rencontrer le peuple chez qui j'allais complètement aboutir, me renaître complètement. Il y a un endroit où je me suis accouché moi-même, je me suis forgé qui j'étais professionnellement. C'est ce qui m'a porté énormément, parce que j'ai fait plein de voyages. Et ce qui fait que voilà, à travers, aussi bien dans ma profession, enfin, s'il y a une différence entre moi et ma profession, et puis en tant qu'homme, j'ai appris leur langue, c'est une culture qui me fascine, j'ai appris à vivre avec les êtres humains, j'étais très fâché avec l'humanité, ouais. Eux m'ont réconcilié avec l'humanité.
Ouais. Et ils vous ont donné envie d'aller voir plein d'autres peuples autochtones ensuite, parce que on s'en rend pas bien compte, mais les peuples autochtones, ça représente 370 millions de personnes, 5% de la population mondiale, ce sont des personnes qui appartiennent à ces fameux peuples autochtones.
Non, non, non. Moi j'ai dit non, non, non.
Ibi buranke nunege kabura musana. Tunkara de Mousso, Nebile le fait. Baka de Mousso, Nebile le fait. Marambodi de Mousso, Nebile le fait. Sandani Kanideba, I know you.
Geneba et Fusco qui chantaient Richer dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Position.
Tarobatou, île de Palawan,
Philippines.
35 habitants, kilomètres carrés.
Autrefois, une échelle conduisait au ciel. La lille affichoire et les hommes durent demeurer sur la terre, domaine des démons, Saïstan. La lille empoisonna les Niam Kadout, rendit les sangliers farouches, en les effrayant à coups de palmes de bat-bat. Il fit également un trou sur le chemin des maisons, qui depuis restèrent enfoncés dans le sol.
Une légende Taubatou, ce sont les Palawan avec lesquels vous avez sympathisé, que vous avez rencontré, Pierre de Vallombreuse, et que vous n'avez plus quitté. Enfin si, pendant une période, on va le comprendre, pendant une période vous les avez un peu perdus de vue, mais vous les avez ensuite retrouvés. La première rencontre pourtant avec eux a été presque un peu décevante, parce que vous alliez chercher des hommes des cavernes, c'est ce dont on vous avait parlé. Racontez.
Oui, j'étais encore à une époque où j'étais un peu naïf, il y avait un peu d'exotisme, il fallait que ce soit. Et puis je débarque là au fin fond de ça avec ma première femme Douja, on débarque très loin pour un long voyage éreinté, et puis on arrive sur avec des gens qui étaient en rue en pagne, 2-3 t-shirts, des petites maisons sur pilotis, une vallée très jolie mais avec des rizières, il faisait genre 35 degrés, rien de passionnant.
Tout ça, et c'est même aux Philippines, pas, hein, on rappelle,
oui, aux Philippines, dans l'île de Palawan, au sud des Philippines, et rien de, c'est pas le peuple exotique avec plein de tatouages, avec des décorations, des maisons avec des sculptures, enfin un petit peu où tout d'un coup on est un peu impressionné comme ça, très simple. Et puis on est là, on commence à apprendre la langue, des mots, on sympathise, parce que les gens sont exquis, délicieux. Et puis, je dis, mais alors ces cavernes, m'avaient dit que vous étiez dans des cavernes, je comprends pas. Et puis, il m'emmène voir finalement des cavernes tout au bas des pieds des falaises, en me disant, bah voilà, mais ça c'est dans 2 mois, c'est dans 3 mois, c'est quand la mousson va arriver. Donc effectivement, on va se protéger, on va vivre là ou quand on est attaqué. Pas où il y a la guérilla musulmane, soit l'armée, ils vont se protéger. Donc je me dis, voilà, un truc très simple qui donnait pas très envie d'y retourner, banal. Donc je rentre à la rentrée aux Arts Déco, et puis tout de suite, à peine un mois après la rentrée, je disparais. Et là, je vais en pleine saison des pluies, et je rentre dans la vallée, je monte avec deux personnes de la côte qui m'accompagnent, on gravit la falaise, et tout d'un coup, on entre sous la brume, la pluie, tout ça, et je rentre dans une caverne complètement habitée, avec le son du gong, là, le feu, et là, c'était encore la deuxième grande émotion de ma vie, où tout d'un coup, on avait l'impression que la notion de temps était abolie, et je rencontrais, j'étais totalement émerveillé, c'était le livre de la jungle, c'était les royaumes de l'enfance, voilà, retrouver tout ce qu'on a pu imaginer, je l'ai vécu moi de façon concrète, tout ce que j'ai pu, mes rêves d'enfance se sont réalisés, c'était un moment extraordinaire. Donc là, c'était tout ce qui est, je dirais, du domaine du merveilleux, de comme ça, c'est des images qui viennent. Et puis j'allais découvrir, parce que j'ai fait plus de 15 voyages, et puis je crois que j'ai passé 2 ans et 6 mois, 7 mois, au bout d'un moment je compte plus, là j'y retourne pour la troisième fois après 15 ans d'absence, j'allais découvrir une civilisation, une culture et des gens exceptionnels, et que la véritable beauté, ce n'est pas dans l'extérieur, c'est la philosophie de ces gens-là, ces gens qui sont dans la non-violence, des anarchistes, il n'y a pas de chef.
Ce qui vous a attiré, c'était un lieu, une ambiance, un paysage, un décor, et vous y êtes resté pour les gens et les vraies rencontres que vous y avez faites. Ce que vous n'étiez pas venu chercher était encore plus intéressant à trouver.
Tout à fait, c'était l'humanité, j'ai trouvé les gens que j'aime le plus au monde et la forme de société que j'aime le plus aussi.
Alors décrivez-nous les règles de cette société que vous commenciez à décrire.
Alors c'est très bien, la violence physique est extrêmement rare, elle est considérée comme une maladie. Quand deux ados se donnent une claque, ça peut arriver, mais c'est un traumatisme en toute la vallée. C'est une société aussi où il n'y a pas de chef. Elle est foncièrement, et ça c'est un grand ethnologue du CNRS, Charles McDonald, qui connaît les Palawan depuis 40 ans, il arrive à cette conclusion qu'on a affaire à un peuple d'anarchistes. Mais c'est pas des anarchistes durs ni violents. Il n'y a pas de hiérarchie chez eux. Et quand quelqu'un a un petit statut un peu au-dessus des autres, parce que faut pas non plus, il y a toujours un petit peu, il n'a pas vraiment de pouvoir. Il peut donner son avis, mais voilà. Quand c'est donc cette société, moi j'aime beaucoup, on donne pas d'ordre. Ouais. Quand un enfant, par exemple, dit, ses parents vont dire tiens, tu vas aller chercher de l'eau ou tu vas aller au champ chercher. S'il dit non, il dit non. On va pas lui dire tu vas y aller. Le non est aussi important. On respecte. On lui dit ikaolang, ça veut dire c'est ta décision, c'est toi.
Et alors, quel statut vous aviez ? À quel point étiez-vous intégré dans leur société ? Ils ne sont pas nombreux, ils sont 200, hein, les Taubatou, si j'ai bien compris.
Oui, alors ils font partie de l'ethnie Palawan, qui est à peu près, je crois, 30 000 personnes. Mais eux, ils sont 200 dans cette vallée-là. Bah, pendant ces 10 premières années où je revenais tous les ans, des séjours de 6 mois, 2 mois, 1 mois, à la fin, je faisais partie de la vie de la vallée. Je n'étais pas devenu un Taubatou, mais j'étais intégré à des procès comme témoin. J'étais même accusé.
Alors,
d'avoir été avec des gens, de fuir d'autres personnes pour pas leur donner de cadeaux, parce que bien sûr, j'apporte des cadeaux, des outils. Donc, il y avait une petite jalousie qui s'était créée, et ça s'est dégonflé complètement. C'est des petites accusations. Mais ce qui voulait dire que s'ils avaient cette liberté, alors que ce sont des gens extrêmement farouches, timides, craintifs, si tout d'un coup, on voulait déclencher un petit procès contre moi, ou me faire intervenir, c'est que j'avais une confiance et un statut très particulier, parce qu'à l'époque, là, la vallée, il y avait un routard qui débarquait tous les 2 ans, et de temps en temps, un ethnologue ou deux. Mais c'était tout. Là, maintenant, depuis, la route s'est construite, des touristes viennent, peut-être une trentaine, une vingtaine par an, ça reste quand même isolé, mais il y a au moins ce flot-là, l'administration, donc ça a complètement changé. Mais à l'époque, non, donc quelqu'un qui revenait tous les ans, qui apprenait la langue, qui passait 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois dans la vallée, à bout d'un moment, c'était des amis, on avait une relation de confiance, et voilà, donc c'était un endroit où je me sens très 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 bien, j'étais complètement accepté.
Alors on était chez les Taubatou, mais évidemment vous avez vu énormément de populations. Finalement, les Taubatou dans les îles Palawan, ce ne sont pas ceux qui ont le plus souffert, hein, vous semblez dire. Vous, alors, on va peut-être quand même en dire 2 mots, mais pendant une quinzaine d'années, vous n'avez plus voulu y aller. Pourquoi ?
Parce que je les avais rencontrés pendant 10 ans. À l'époque, il n'y avait pas de route le long de la côte. C'était comme je vous l'avais raconté. On pouvait mettre une semaine. C'était difficile. Donc la vallée était assez préservée par une espèce d'isolat dans la géographie extérieure la plus proche. Les dernières années, la route avait été percée. Il y avait un afflux de migrants pauvres des Philippines qui venaient grignoter les terres qui borde la vallée, les intrusions des missionnaires, un peu plus de touristes, l'administration. Et donc, je voyais cette vallée, une petite partie, hein, quelques dizaines de personnes s'étaient converties au protestantisme, avec des sectes. Donc, tout d'un coup, et comme entre-temps, j'avais été faire des reportages sur d'autres peuples, je me disais, mais voilà, ce qui va leur arriver, c'est qu'ils vont se faire dissoudre. Ils vont disparaître. Et ça va être la fin de mon royaume, la fin de l'endroit que j'ai le plus aimé.
Et donc vous avez préféré détourner le regard plutôt que de voir ça?
Tout à fait. J'ai dit, j'ai pas le courage. J'ai été de manière tout à fait lâche. J'ai dit, voilà, j'ai pas le courage de les voir se faire détruire. Donc je suis parti témoigner pendant 15 ans de la destruction des peuples autochtones dans le monde entier, des problèmes auxquels ils faisaient face, de leur victoire parfois, de leur combat souvent. Mais toujours avec dans l'air de ma tête la vallée. C'était à eux que je pensais, mais j'avais pas le courage de les voir eux. Et finalement, à un moment donné, quand mon père est mort, dans l'année qui a suivi, je me suis dit, il y a quelque chose qui manque énormément. Et je me suis dit, mais c'est la vallée, bien évidemment. Et donc j'y suis retourné. Et là, la grande surprise, c'est que d'abord, ils avaient très très bien résisté, que la plupart de ceux qui étaient chrétiens étaient revenus à leur religion d'origine. Que bien sûr, beaucoup d'échanges se faisaient, plus de touristes, ils font des allers-retours extérieurs, il y a beaucoup d'interventions, mais que finalement, l'essentiel qui était leur identité, et tout, j'avais accepté l'évolution aussi, et qu'ils sont en évolution, mais pour le moment...
C'est ça, vous avez quand même évolué vous-même, puisque vous étiez un peu dans un conservatisme finalement au départ, et vous avez admis qu'on peut survivre en évoluant, sans se dissoudre forcément.
Mais totalement, et d'ailleurs, l'évolution, c'est la clé même. Une société qui n'évolue pas, elle meurt. Simplement, voilà, moi je milite et je défends le fait que les peuples, on doit leur laisser le temps d'évoluer à leur rythme, ouais, et avec leur propre énergie. Parce que sinon, c'est de la destruction, on génère des malheurs, on crée des désespoirs. Donc effectivement, d'un côté un peu naïf, exotique, comme on nous vend dans des émissions débiles à la télé, des choses. Non, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de ces peuples-là, qui eux-mêmes ont leur propre désir, leur propre volonté, mais qu'on les laisse choisir, ouais, et qu'on les laisse évoluer.
Oui. Alors, il y a des cas effectivement flagrants où ça se passe mal, le rapport entre les gouvernements et les populations autochtones qui peuvent se trouver sur les terres en question. Il y a notamment les Papous de Nouvelle-Guinée. Alors, rappelez-nous brièvement la situation que vivent ces Papous auxquels vous avez rendu visite.
Alors, moi, je parle des... Là, vous parlez des la Papouasie-Nouvelle-Guinée est une grande île dont la moitié est un pays indépendant, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mm-hmm, et l'autre est une province de l'Indonésie qui s'appelle Lirian Jaya. Lirian Jaya était conquis dans les années 60 par l'armée indonésienne. C'est un cadeau de la guerre froide, parce qu'à l'époque, le gouvernement de Sukarno était un non-aligné, très proche du parti communiste chinois, parti communiste interne très puissant, et les Américains n'avaient qu'une peur, c'est que voilà, ça devienne une superpuissance locale qui tombait dans l'escarcelle de la Chine. Donc ils ont, et comme à l'époque c'était l'époque de la décolonisation, ils avaient récupéré, c'était de la colonisation hollandaise, donc tout l'archipel indonésien avait été libéré, mais les Hollandais avaient aussi la moitié de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et les Indonésiens ont dit mais ça, tout ce qui était avant hollandais est indonésien. Mmh. Donc ils réclamaient ça. Ce qui est totalement, entre un Sénégalais et un Danois, vous avez la même différence qu'entre un Papou et un Javanais. Mmh. Il n'y a strictement aucun lien. Mais on leur a fait ce cadeau. Les mecs ont dit, ok, guerre froide, envahissez, on va rien dire, vous le gardez. Et donc tout d'un coup, on voit ces Papous qui sont sous le joug d'une administration coloniale, d'une invasion armée de la part de l'Indonésie. Il y a des génocides, il y a de la torture, il y a des exécutions, pillages. Des millions de Javanais, de gens de Sumatra sont implantés dans cette province. Et voilà, donc moi j'ai fait un travail de 6 mois là-bas, oui, et j'ai été voir la guérilla Papou dont on ne parle jamais.
Alors justement, on va en parler un tout petit peu puisque je vous propose d'écouter un rebelle Papou, Karel Lapa. Payne, il est chef du mouvement indépendantiste Papou appelé OPM, qui se cachait donc dans la jungle traqué par les forces indonésiennes.
Notre terre regorge de richesses. L'or, du pétrole, les diamants et le bois. Nous sommes riches et nous osons nous opposer en montrant au monde que nous avons des droits. Il faut résoudre nos problèmes au niveau international. Car nous ne voulons pas la guerre avec l'Indonésie.
Voilà, on est dans le cœur du genre de combat que vous avez envie de relayer, Pierre de Vallombreuse.
Tout à fait. Et là, c'était malheureusement, on parle des Papous, on les voit habiter en haut de d'arbres avec des os dans les narines. Enfin, voilà toutes les caricatures. Alors qu'en vérité, c'était la véritable actualité. Si on veut parler de ces peuples-là, faut montrer leur combat et les crimes dont ils sont les victimes. Et en Papouasie, en Lirian Jaya, province coloniale, c'est une situation coloniale contemporaine, on tue, on assassine tous les jours.
Effectivement, vous fustigez l'ethno-business et d'ailleurs, c'est pas ce terme que vous employez, hein,
le primitive business.
Voilà, primitive business, plus exactement. Et notamment, une population qui vit en Tanzanie en est victime, c'est les Atsabé.
Oui, alors là, on ça participe de cette... Toujours, voilà, parce que j'en reviens, que ce soit à la télévision, parfois par la photographie, parfois par les compagnies minières, les compagnies qui sont là pour prendre le bois, la terre, de la main d'œuvre, la vie de ces peuples-là, la rencontre avec les sociétés dominantes, ouais, c'est la perte, c'est l'utilisation mercantile. Tout le monde fait son beurre et beaucoup d'argent, et au détriment soit de l'image, de l'authenticité, de territoire. Donc effectivement, les Atsabé, ce sont des gens qui ont été... Il y a un documentaire qui avait été fait, qui a fait le tour du monde. Tout d'un coup, les tour opérateurs se sont dit, bah tiens, c'est génial, on a affaire à des derniers chasseurs-cueilleurs en Afrique. Et c'est devenu, on a en Tanzanie, après les parcs, il y a eu le produit dans les brochures Atsabé. Et donc, les gens viennent voir des Atsabé, qui, eux, est un peuple qui a complètement compris qu'il allait disparaître. Donc déjà, se défoncent pas mal, fument et avaient tendance à boire. Avec l'alcool, ils ont quelques dollars, parce qu'on paye 300 dollars jour pour être chez eux dans un lodge à Obscène, avec chauffeur, cuisinier, de 300 à 500 dollars. On va voir, soi-disant, l'homme de la préhistoire, mmh, alors que c'est un ramassis d'ivrognes, de gens, de la truc.
Il y a pas, la moitié. Qui se déguise pour accueillir les touristes.
Qui se déguise en Atsabé. Les Atsabé disent au type qui vient, leur copain qui fait partie d'une autre ethnie, du village qui est au chômage, mais viens avec nous, tu mets ta petite peau, tu tires à l'arc, tu fais 2-3 petites danses, on se serre la main, et puis voilà, puis à la fin, on va te donner 2-3 dollars, avec ça, ils vont s'acheter de l'herbe ou de l'alcool, ils couchent n'importe comment. Et donc le taux de sida de chez eux est de 15%, alors qu'en Tanzanie, il est de, je crois, de 7%. Il est le double. Ouais, et ils ne se soignent pas. Donc les gens, ce que ne savent pas, c'est que les gens qui payent 300 à 400 dollars jour sont en train d'assister à un peuple qui est en train de mourir physiquement.
Pour en savoir plus sur la situation inquiétante de ces peuples autochtones, je vous recommande deux ouvrages de notre invité Pierre de Vallombreuse. Y a-t-il la lune chez toi, aux éditions Le Passeur, et Homme Racine, un beau livre de photos préfacé par Pierre Rabhi, aux éditions de La Martinière.
Monsieur Président, ou intelligent, faut expliquer moi ça qui a passé où. Monsieur Président, c'est vrai que
c'était Del Grease, Mr. President.
Sur France Inter. Daniel Fievé.
D'ordinaire, le temps d'un bivouac reçoit des voyageurs après leur périple. Ce jour-là, c'était un peu différent. Nous recevions des voyageurs loin de chez eux. José Gabriel Limaco et Aregoses Coronado, deux Indiens Kogi ou Kagaba, venus de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombie. Tous deux avaient été choisis par leur communauté pour porter leur message à l'étranger. Ils étaient accompagnés d'un ami, Éric Julien, géographe, écrivain et fondateur de l'association Tchendukua. Il se bat depuis 30 ans à leur côté et les aide à racheter des terres sur lesquelles leurs ancêtres ont vécu depuis des millénaires et que la colonisation leur a arrachées. Ce jour-là, nous étions impressionnés et impatients d'écouter ce que les deux représentants Kagaba étaient venus nous dire.
Avant de pouvoir aller plus loin avec les Indiens, le visiteur étranger est soumis à un rituel d'entrée.
Tiens, il faut en donner un à chacun.
Chacun reçoit un morceau de coton et doit penser à ce qu'il a ressenti avant d'arriver ici.
Bienvenue à tous. Ils ont un ensemble de rituels pour essayer de recevoir notre pensée à nous qui venons de l'extérieur.
Donc notre pensée est censée aller dans ce morceau de coton qui nous a
distribué. La pensée, après, c'est des croyances qu'on a ou qu'on n'a pas, est censé être porté par ce petit support. Mais ce qui est le plus important pour eux, c'est l'intention qu'on y met plus que le support.
Le chaman va traiter de ce morceau de coton.
En fait, en faisant ça, ils sont responsables de nous pendant ce séjour. Le chaman va travailler la pensée pour que ça reste fluide et harmonieux. Voilà.
Éric Julien, José Gabriel Linaco et Aregoses Coronado, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Éric Julien, ce que l'on vient d'entendre là, c'est le rituel d'arrivée quand on rencontre les Indiens Kogi dans leur vallée, là-bas en Colombie. Il y a ce petit coton qu'on se donne pour prendre soin finalement de nos hôtes. Vous y avez participé, vous y avez eu droit.
Chaque fois qu'on rentre chez eux, il y a une importance donnée à l'accueil. Et au fait de dire on vient d'un monde agité, extérieur, moderne, l'avion, etc., on arrive sur un territoire beaucoup plus calme et serein. Et ce seuil, ce passage pour rentrer chez eux sans arriver avec toutes nos idées un peu agitées est très important. Et c'est assez agréable à vivre, en fait, d'être accueilli comme ça.
Alors ici, à la radio, il n'y a pas de coton, mais il y a un rituel. C'est de présenter les invités autour de la table. Alors souvent, je donne un métier, une fonction, un titre, un livre écrit par l'invité. Aujourd'hui, ça me semble pas tellement à approprié de faire comme ça. Alors je préférerais qu'ils se présentent eux-mêmes. Vous allez jouer le traducteur.
On va essayer. José Gabriel, en lengua, puedes presentarte?
Il a dit en quelques mots qu'il s'appelle José Gabriel Limaco, qui vient de la Sierra Nevada de Santa Marta, le cœur du monde, qu'il a 84 ans. C'est un voyage un peu éprouvant pour lui et que son identité et sa personnalité sont liées à ce territoire dont il vient.
Arrigoses Coronado, à vous de vous présenter.
Tu puedes presentarte.
Buenas tardes.
Bon après-midi à vous.
Merci. Mi nombre es Arrigoses Coronado Sarabata. Sois indígenas Kogi.
Je suis un indien Kogi.
Uno de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Un des quatre peuples qui habitent dans la Sierra de Santa Marta.
A la vez, soy líder.
Je suis aussi un leader.
Representando al resguardo Kogi Malayo Arhuaco.
Et je représente cette réserve indienne en France.
Entonces, y estoy aquí y estoy muy contento de estar.
Je suis content d'être ici.
Hablando aquí en la radio.
Ça me fait plaisir de parler ici.
Eh ben, on est très heureux, nous aussi, de vous accueillir. Éric Julien, dites-nous un peu, racontez-nous l'histoire de ces Indiens qui, vous l'avez dit, c'est un peuple millénaire.
Alors on n'a pas toutes les informations sur depuis quand ils vivent dans leurs montagnes, mais on sait à peu près que c'est 4000 ans d'histoire ininterrompue. Donc si on prend notre référence christique sur un plan historique, on en est à 2017, ils auraient 2000 ans de plus, voilà, dans cette montagne. Ils ont une langue qu'on appelle vernaculaire, c'est-à-dire qui n'est parlée que dans cette partie du monde. Et il semblerait qu'il y ait des racines assez fortes avec les communautés traditionnelles mayas, enfin tout le petit monde précolombien qui a vécu en Amérique centrale. Donc une société qui vient de très très loin dans l'histoire, et chose curieuse, qui est assez connue sur tout le continent sud-américain. C'est-à-dire qu'il y a, quand on parle des Amérindiens, que ce soit au Chili, que ce soit en Équateur ou au Pérou, et qu'on dit les Kogi, de leur vrai nom les Kagba, les gens qui connaissent la nature.
Oui. Pourquoi il ne faut pas dire... Enfin, ils se présentent comme Kogi, hein. J'ai entendu, j'ai reconnu le mot, mais pourquoi Kogi, en fait, il faudrait
porque,
pas...
Pourquoi la palabra Kogi no está buena? El verdadero nombre de usted, ¿cuál es? Je demande, quel est le vrai nom? Parce que c'est des noms qu'ont donné les colons, hein, souvent.
Oui, évidemment.
Bueno, la historia es que... Et nosotros, en la parte de nuestros hermanos menores, nos llaman los Kogi.
C'est les petits frères, c'est-à-dire c'est vous, les civilisés, entre guillemets, qui nous appelez les Kogi.
Eso nos ha llamado en la llegada de los colonos hacia la Sierra Nevada de Santa Marta.
Quand ils sont arrivés dans cette région du monde.
Y dijeron que estos
ça,
indios vamos a llamar Kogi.
Ces indios, c'est une insulte, les indios, on va les appeler
Kogi. Es una palabra que fue manejado por nuestros padres ancestrales negativos.
C'est plutôt une énergie négative pour
hombre,
moi.
Hombre negativo,
ça veut dire
hombre
les hommes mauvais. Pas terrible.
Pourtant, lui-même, quand il s'est présenté, il a employé ce terme. Je l'ai reconnu. Pourtant, je ne parle pas l'espagnol, mais j'ai reconnu ce mot.
Et tu, à veces, lo usas, Kogi?
Sí, lo que pasa es que eso ya está difundido a todo.
Oui, des fois, je l'utilise, mais comme c'est maintenant un mot qui est diffusé partout et que c'est
reconocido
sous ce nom-là qu'on est connu, nous-mêmes...
Pero en sí, nosotros nos llamas Kagba.
Mais notre vrai nom, comme il l'a dit, le dira mieux que moi, c'est Kagba.
Quiere decir, son las... indígenas, aborígenes de la Sierra Nevada de Santa Marta, que tienes una cultura, una visión ancestral de la madre naturaleza.
Ça veut dire les gens de la Sierra de Santa Marta qui ont une vision et une culture ancestrale de la mère nature.
Alors nos invités seront Kogba désormais.
Kogba. Ahora vamos a llamar de verdad con el verdadero nombre Kogba. Maintenant on va vous appeler avec votre vrai nom.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance. À pas sûr, à pas lent,
C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Ça reste de racines, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui s'oppose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond, par les peines, et on finit au camino.
Les eaux de mars, Georges Moustaki, et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Djoubaka.
Merci de nous autoriser à être là. Encore une fois, excusez-moi, je sais que c'est difficile pour vous d'accepter des étrangers. J'espère que ce travail que nous sommes en train de faire ensemble, c'est comme un chemin. Et sur un chemin, on progresse pas à pas. J'espère que l'on va réussir à apporter des terres, quelques ressources pour vous aider directement, pour que les ressources arrivent aux gens d'ici et que vous puissiez décider vous-même ce que vous souhaitez en faire. Pour moi, encore une fois, je veux vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Merci, Okugi.
Au début, beaucoup de Kogi ne te croyaient pas. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont venus nous faire des promesses. Ils ne sont jamais revenus. Il semble que toi, tu tiennes ta parole. Tu reviens en nous disant que tu peux acheter une terre. Maintenant, on peut voir les choses. La communauté est d'accord pour te faire confiance.
Un petit flashback, échange entre Eric Julien et la communauté des Indiens Kogba. C'est une reconstitution du moment où ces Indiens ont accepté de vous accorder leur confiance. Eric Julien, nous étions dans les années 80, ils venaient de vous sauver la vie, vous leur aviez fait la promesse de restituer leur terre qui avait été spoliée par les colons. C'est amusant parce qu'en écoutant le son, je voyais José Gabriel Limaco, notre invité Kogba, qui sourit en entendant ça, un peu comme une farce.
Je crois qu'il a entendu aussi la voix de son fils. Ça lui a fait un peu drôle dans cet endroit-là d'entendre son fils.
Ah ben voilà, vous voyez qu'on passe son fils jusque sur les antennes françaises. Ça a été dur d'obtenir cette confiance. Peut-être demander à Arregoces Coronado s'ils ont hésité avant de croire en vos belles promesses.
¿Cuánto tiempo es complicado tener la confianza de los mamas para trabajar juntos? Y el señor quiere saber si es fácil dar confianza a un extranjero como yo para trabajar juntos. ¿Cómo uno hace confianza a una persona de afuera? ¿Entendiste la pregunta?
Sí. Nosotros cuando tenemos un problema en la Sierra Nevada,
cuando tenemos un problema en la Sierra que se llama Guenavendúa,
que hay que empezar a entregar mensajes y divulgar ese mensaje, lo que está pasando en la sierra, Por eso mismo estamos aliando con diferentes organizaciones, como por ejemplo Chenduquas.
Quand on a des difficultés ou des problèmes dans la Sierra, comme on n'a pas les moyens d'en parler à l'extérieur, on cherche des alliances, on cherche avec qui on va pouvoir le faire, comme par exemple avec toi.
A interconectarse.
On va essayer de se relier.
Para poder sacar adelante
pour sortir de
nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, nuestra Sierra Nevada de Guanabinduas, porque si no hacemos eso,
si on fait pas ce travail de trouver des alliances,
siempre
pour
va
sortir,
a seguir ocurriendo múltiples problemas.
Les problèmes vont se multiplier.
Entonces es para poder construir un plan de manejo para el cuidado de la madre naturaleza en la Sierra Nevada de Guanabinduas.
C'est des alliances qu'il faut qu'on fasse pour pouvoir travailler ensemble sur des démarches de protection de cette montagne et du cœur du monde, comme il l'appelle. Mm-hmm. Pero tienes confianza o no?
Solo que es entender entre ambas partes.
La grande difficulté, évidemment, c'est de se comprendre entre les deux mondes.
Sin ninguna imposición.
Et surtout qu'on ne se fasse pas imposer les
choses. Por parte de los hermanos menores hacia la cultura de los pueblos indígenas. Así hemos trabajado muy bien hablando entre ambas partes.
S'il n'y a pas de volonté d'imposer à l'autre culture quelque chose, tant qu'on se respecte, et ça a été le cas, on a très bien travaillé ensemble.
Éric Julien, quelle menace pèse aujourd'hui? Alors déjà, on l'a compris, il y avait cette histoire de terre qui n'est peut-être pas entièrement réglée, mais au moins vous en avez racheté quelques-unes pour qu'ils puissent s'installer à nouveau sur ces terres de leurs ancêtres. Quelles sont les autres menaces qui pèsent sur cette communauté qui était avant l'arrivée des colons espagnols, des conquistadors? Ils étaient 500 000, ils ne sont plus que 12 000 aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont confiants pour l'avenir? Est-ce qu'ils sont inquiets? Est-ce qu'ils se semblent en voie de disparition, en quelque sorte menacés, extrêmement menacés?
La pregunta es saber cómo ven ustedes el futuro. ¿Tienen miedo del futuro? ¿Tienen miedo de las amenazas? ¿O piensan que podemos salir?
En las ideas o en la culturas indígenas.
Dans les cultures indiennes, donc dans la nôtre.
Hay un problema de nuestro planeta Tierra.
On voit le problème vraiment sur l'ensemble de la planète.
Porque empiezas a enfermar.
Elle commence à tomber malade.
Empiezas a tener el escalofrío.
Elle commence à avoir des réchauffements. Vous appelez ça réchauffement climatique de la fièvre.
Lo que nuestros hermanos han dicho es que la planeta tiene el calentamiento global.
C'est ça que vous appelez, vous, le réchauffement global.
¿Por qué pasa eso? Porque nosotros mismos estamos acabando con el mundo.
Parce que c'est nous les hommes qui décidons d'arrêter la vie, c'est nous qui faisons ça.
A través de muchas megaproyectos.
Il y a plein de gros projets partout.
Que afecta, que atentas a la madre naturaleza.
Qui affecte et qui abîme la mère nature.
Y si seguimos con esos trayectos, con esos caminos.
Si on suit ce chemin, cette route.
Podemos seguir acabando más
c'est
a la madre
qu'on
tierra.
On va disparaître avec la nature. On va faire disparaître la nature et nous avec.
Y está sufriendo mucho la madre tierra.
Elle souffre en ce moment.
Il y a quand même un équilibre, j'ai l'impression, et ça c'est une question que j'aimerais bien vous poser à Rigozès Coronado, un équilibre entre la modernité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas entièrement coupé de notre monde, la preuve, vous êtes venu jusque dans notre studio, ici, à France Inter, et en même temps très attaché à votre monde à vous, vos traditions. Cet équilibre, est-ce qu'il est difficile à trouver?
¿Cómo hacen ustedes para guardar el equilibrio entre las leyes de la madre y el mundo del hermano menor, el teléfono, el celular, el avión que usan? Porque para viajar hasta aquí usaron el avión.
Nosotros nos basamos para poder tener el equilibrio entre el mundo y la persona, como nosotros indígenas, nosotros estamos manejando la ley ancestral, la norma de las naturalezas.
Nous, la référence qui nous sert pour prendre nos décisions et agir, c'est ce qu'on appelle les lois de la nature, les lois ancestrales.
La misión de nosotros es cuidar, conservar lo que son los recursos naturales sin dañarlos.
Et nous, notre mission, telle qu'on la porte dans notre société, c'est de protéger ce que vous appelez les ressources naturelles sans les abîmer.
Es una cultura que ha venido de hace muchos tiempos,
ça
que hemos tenido vivas, sin perder esas tradiciones orales
sans
y culturas que tenemos.
Orale pour faire ce travail.
Entonces, a veces, para venir por acá, pues nos ha tocado tocado venir en avión.
Parfois, pour se déplacer, venir jusqu'ici, effectivement, on a pris l'avion.
Porque son esas tecnologías
que
a veces impactas, pero entonces para venir por acá, pues nos toca utilizar para poder divulgar esos mensajes, entregar esos mensajes.
Il a bien fallu venir jusqu'à vous pour pouvoir diffuser ces messages, et là c'est vrai qu'on a pris cette technologie, l'avion qui impacte la nature.
No es solamente venir solamente de turismo, de pasear.
On n'est pas venu pour le tourisme ou pour se promener.
Esa tecnología utilizamos para poder contrarrestar esos daños ambientales que están impactando a la madre tierra.
On est venu pour un peu témoigner, vous interpeller sur ces destruction environnementale qui se passe. On n'est pas venu pour faire du tourisme.
Ouais. Pour eux, la nature, ils voient la montagne où ils vivent comme un organisme vivant, avec des organes.
Pourquoi llaman eso corazón del mundo? Es un corazón de verdad? Pourquoi vous appelez ça le cœur du monde?
Lo que pasa es que nosotros, la Sierra Nevada de Santa Marta, consideramos el corazón del mundo porque para poder empezar la madre a construir la tierra empezó desde ese lugar. Desde allá empezó, es el sitio donde se empezó, donde nació la tierra, y desde ahí es donde empieza a expandir la tierra, donde hoy en día encontramos nuestra
tierra. Entonces, dañar la sierra es dañar el corazón.
Corazón del mundo. Si uno no tiene el corazón, se puede morir.
Pour les Kogi, cette montagne représente philosophiquement le cœur du monde. C'est là que la vie et la terre se sont construites. Ouais. Mais pour répondre peut-être de manière peut-être plus appréhendable pour les auditeurs, c'est comme si nous passions du paysage, nous on regarde la nature comme un paysage, une esthétique, au paysage, c'est-à-dire un pays, un territoire qui est enseignant. Ils ont un rapport au territoire qui est très proche du corps humain, c'est-à-dire que les eaux, ben c'est les roches, le système pileux, c'est la végétation, les arbres, le sang, c'est les rivières, etc. Donc abîmer le territoire, c'est en fait s'abîmer soi-même. Ils considèrent qu'en en abîmant le territoire, nous créons nos propres maladies, puis nous créons des produits chimiques pour gérer les maladies que nous avons nous-mêmes créées. Et ils nous disent souvent, mais vous retrouveriez un lien basique avec la nature, vous n'auriez plus besoin de ces médicaments.
On sent qu'ils se méfient profondément de notre économie et de notre façon de tout marchandiser. Je crois que dans la région, le gouvernement a voulu faire des opérations de commerce équitable, de leur faire pousser du café. Ça a tourné court. Expliquez.
Alors effectivement, il y a difficile à voir, mais le gouvernement colombien, les autorités colombiennes, parfois en bonne foi, essayent de proposer dans le meilleur des cas, d'imposer dans le pire des cas, des cultures, des pratiques modernes. Et souvent, ils disent non, non, non. Et puis ils reviennent. Et là, sur le café, ils ont beaucoup insisté en disant « mais ça va être du commerce équitable, ça va être de l'argent ». Et donc certaines familles ont accepté de cultiver du café, de récolter, de descendre dans la vallée, de le vendre et donc de l'avoir de l'argent et d'acheter des produits manufacturés et de revenir au village avec des produits manufacturés que les autres n'avaient pas. Ça a été les premiers vols et les premières jalousies. Alors ça, on connaît bien dans nos sociétés, c'est pas très nouveau. Ce qui est plus original, peut-être, c'est que les Kogi se réunissent pour se dire « qu'est-ce qu'on privilégie ? Le lien social ou le risque d'éclatement ?» Il y a une énergie, en l'occurrence celle de l'argent, qu'on ne maîtrise pas. Et dans beaucoup de cas, ils ont arrêté le café. Dans d'autres cas, ils ont laissé le café. Et ce que je trouve remarquable, ils disent souvent, les chamans qui gèrent un peu cette communauté, ils disent souvent aux Kogi, je serais toi, je ne ferais pas ça. Ils donnent des conseils, mais il n'y a pas d'imposition. Mais si tu veux vraiment le faire, fais-le. Donc il y en a qui ont essayé le café, pour voir, même si la communauté ne souhaitait pas le faire. Il n'y a pas d'imposition des normes, il y a plus une orientation avec des conseils.
Qu'est-ce qu'ils voudraient que l'on retienne de leur message? C'est-à-dire qu'ils sont venus, je l'ai dit, délégués par l'ensemble de leur communauté pour venir jusqu'à nous. Alors, pas spécialement nous, à France Inter, ils sont venus en France pour une semaine. Laissez-nous le croire, ça nous fait plaisir, on est flattés. Ils sont venus nous porter des messages. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de leur venue?
La pregunta es saber, ustedes hicieron 12.000 kilómetros en avión, vinieron hasta nosotros aquí para llevar un mensaje.
Bueno, cada vez que uno viaja,
chaque fois que l'un d'entre
nous mamu,
voyage,
los autoridades tradicionales,
le mamu qui nous accompagne aujourd'hui, José
ellos
Gabriel,
han dicho que hay que entregar este conocimiento sobre las afectaciones ambientales, sobre la madre naturaleza que hoy en día estamos destruyendo.
Le message essentiel qu'on essaie de partager, c'est qu'il faut absolument qu'on porte cette parole, que nos actes et nos pensées détruisent aujourd'hui la nature.
La madre tierra.
La mère
es como
nature,
una persona.
C'est comme une personne.
Es una madre que
mère.
También sientes,
donc elle
que
sent,
también sufres.
Elle souffre.
Entonces por eso mismo hay que empezar a concientizar sobre la madre naturaleza.
Qu'est-ce que c'est que cette mère nature?
Porque si nosotros seguimos con esos,
si on continue comme
con
ça,
esa destrucción,
avec cette destruction,
estamos diciendo a la madre tierra que el tiempo sea más corta.
C'est nous qui disons, qui envoyons comme message à la mère nature, bah, qu'on veut arrêter.
Entonces, hay que empezar a educar a los niños.
Ouais, commencer vraiment chez les enfants.
En el colegio, en las universidades, en las corporaciones, en las empresas. Hay que empezar a concientizar sobre la madre naturaleza y enseñar qué es la madre tierra.
Il faut enseigner aux enfants qu'est-ce que c'est que la mère terre. Juste pour la petite anecdote, c'était la parole de Michel Serres, notre un de nos philosophes préférés, ouais. qui disait nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde, nos organes, notre fonctionnement physiologique. Mais nous semblons l'avoir oublié, c'est un peu ce qu'ils disent. Il faudrait réintégrer le vivant et la nature dans notre pensée, dans nos comportements. Et ça renvoie à la phrase de Hubert Reeves qui dit « il faudrait changer de niveau d'intelligence ». Il y a quelque chose derrière ce message de dire « retrouvons une alliance avec le vivant, pas pour devenir Kogi, mais pour continuer à écrire notre histoire ».
Arregoses Coronado, qu'est-ce que vous allez dire à votre communauté en rentrant de votre voyage? Je crois que c'est déjà presque terminé. Hein, ils repartent.
Demain, ils reprennent l'avion dans l'autre sens.
Ils reprennent l'avion dans l'autre sens. Qu'est-ce que vous allez leur dire?
La pregunta es que después de una semana en Francia, ¿qué vas a traer en la comunidad? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a decir a la comunidad de lo que pasó aquí? Qu'est-ce que tu vas dire de ce que tu as vécu ici à ta communauté?
Bueno, lo que voy a compartir con las comunidades.
Ce que je vais partager avec eux.
Es que estamos cumpliendo una misión, el mensaje que hemos entregado a varias de las personas, de la gente, de
Francia. On va dire qu'on a accompli notre mission, qui est d'essayer de porter ce message en France aux gens qu'on a rencontrés, qui ont eu la gentillesse de venir nous écouter.
Estamos haciendo un gigonesh a la madre naturaleza.
On essaie de faire ce que nous appelons zigoneshi à la nature, c'est-à-dire qu'en dialoguant ensemble, peut-être que ça peut aider la nature.
Dialoguer con nuestros hermanos.
Dialoguer avec nos frères,
para poder,
vous, nos frères, nos sœurs.
Entre todos.
Pour entre tous.
Cuidar.
Protéger
sobre la ecología ambiental. Entonces, eso es lo que yo lo voy a.
C'est ça que je vais leur dire. Que on a trouvé des gens avec qui on a pu échanger là-dessus.
Hemos entregado el mensaje.
On a transmis le message.
Que nos haya entregado por parte de las autoridades tradicionales.
Que nous avait transmis nos autorités traditionnelles et qui nous avait envoyé pour le partager.
Y ello también nos ha comprometido de ayudar a proteger la madre naturaleza.
¿A qui?
Sí.
Et les gens ici, on a rencontré des gens qui se sont plutôt compromis à nous dire ouais, on va essayer d'aller avec vous dans ce chemin-là.
Compromis. S'il y avait de plus en plus de gens
comme disait l'autre
à se compromettre. Merci infiniment, José Gabriel Limaco, Arregoses Coronado, d'être passé par notre bivouac. Merci à vous, Éric Julien. Si on veut aider votre association dans toutes les actions que vous faites pour aider les Indiens Kogi ou Kogba, c'est selon, il y a l'association donc Tchedunkua.
C'est imprononçable, il faut l'épeler pour que les gens aient le temps d'aller chercher un stylo au fond du...
On va surtout mettre le lien sur la page de l'émission sur franceinter.fr, à la page Le Temps d'un Bivouac. Ce sera plus efficace. Et puis votre livre, Kogi, la mémoire des possibles, chez Actes Sud. Comment on dit merci en Kogi?
Zenja.
Zenjalé.
Wow.
Merci pour ce merveilleux spectacle.
La routine.
Juste après le flash, vous allez découvrir un nouvel épisode de la série d'Anne Pastor, Voyage en terre indigène. Bonjour Anne.
Bonjour Daniel.
Où est-ce qu'on va aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, le réveil indigène en Algérie et au Cameroun. Alors 10 ans après la déclaration du droit des peuples autochtones, eh bien les premiers résultats arrivent, difficilement mais ils arrivent. Alors nous irons en Algérie où les Kabyles, au prix d'une lutte acharnée, ont réussi à obtenir que leur langue soit reconnue officiellement, mais ils sont toujours discriminés. Et puis nous irons au Cameroun, où les pygmées tentent de résister contre des géants industriels, des plantations d'huile de palme, de déforestation. Ils ont même porté plainte pour violation des droits de l'homme.
On vous suit dans un instant, Anne.
Bon voyage!